Hello, bienvenue à toi dans mon podcast Le Temps d'une Femme. Ici, tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, épouse et maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, de positivité, développement personnel, cheminement spirituel, mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble.
Hey, bonjour, salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver cette nouvelle semaine pour un épisode un petit peu spécial qui me tient particulièrement à cœur. Et qui aurait cru qu'un jour je vous parlerais de ce sujet qui a été tellement tabou pendant tellement d'années. Mais je suis ravie d'avoir aujourd'hui une audience bienveillante auprès de laquelle je peux raconter mon parcours sans aucune gêne, sans avoir peur d'avoir à donner mes arguments ni à assumer mes positions. Donc, c'est parti, cet épisode va être un petit peu spécial. D'habitude, je prépare mon script, je prépare ce que j'ai à vous dire à tête reposée. Je le rédige, puis le reprends le lendemain pour l'ajuster, pour ajouter des mots, pour ajouter des phrases, pour en enlever certaines que je n'assume pas forcément. Et cette semaine, j'ai envie d'un épisode qui soit un petit peu différent, beaucoup plus spontané. Et si cet épisode vous plaît, et si je me sens bien, à la fin de celui-ci. Peut-être que c'est un format que je réitérerai un petit peu plus souvent, que je vais appeler confidence. Donc c'est vraiment l'épisode où je vais vous parler à cœur ouvert, je vais parler de mes sentiments, je vais parler de ce que j'ai ressenti au moment des actions que je vais vous partager, des moments que je vais vous partager, sans l'avoir préparé. À l'avance, sans avoir réfléchi au vocabulaire ou à ce que je voulais vous partager. J'ai préparé dans les grands titres, donc le sujet qui, par exemple, aujourd'hui est la femme musulmane, parce que c'est le moment où je me suis dévoilée et que cet aspect de la femme, donc musulmane que je représente désormais, a commencé à se voir sur moi. Et c'est la facette que j'ai dû assumer aux yeux de tous. Donc, reprenons depuis le début. Petit récap, lors du dernier épisode, je vous ai parlé de mon saut dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous ai partagé également mes doutes quant à cette nouvelle aventure et au vu de la charge de travail que ça allait générer avec les 3 millions de casquettes, pour pas faire la Marseillaise, 3 millions de casquettes à assumer au quotidien. Et surtout, de ma remise en question professionnelle et personnelle suite donc à des épreuves vécues, la fin de la première année et que je vais vous partager dans ce nouvel épisode. Effectivement, après m'être épanouie la première année, dans ma première année de business, il y avait beaucoup de travail, mais en soi c'est quelque chose que j'aimais faire, donc ça ne me dérangeait pas tant. Il y avait énormément de casquettes à gérer, mais ça, c'est l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui vit dans l'entrepreneuriat depuis un moment vous dira que c'est normal. Aujourd'hui, j'ai assez de recul pour effectivement constater que c'est la vie d'un entrepreneur classique et personne n'y échappe. Sauf que quand on se lance comme ça sur un coup de tête parce que finalement, il faut trouver une solution et que celle-là, c'est celle qui nous convient le mieux au moment T, eh bien, on ne mesure peut-être pas tous ces aspects-là, étant donné que moi, personne ne m'a conseillé, personne ne m'a accompagné, il n'y avait pas d'entrepreneur autour de moi, donc je n'avais pas cet exemple de travail acharné, je n'avais pas cet exemple des 360 casquettes, comme j'aime l'appeler. Malgré tout, voilà, on dit que on apprend bien aussi quand on est sur le terrain, et c'est la formation de la vie, entre guillemets. Oui, je suis celle qui ouvre les guillemets aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance dedans et advienne que pourra. Et fin de première année, il fallait faire le bilan de cette première année, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et comme je vous l'ai dit, les coachings, c'était quelque chose d'épuisant pour moi parce que j'étais pas assez, pas assez formée pour les faire, mais peut-être pas assez préparée à devoir entendre autant de confidences venant de la part de personnes que j'étais censée accompagner sur d'autres aspects de leur vie et non pas aussi personnelles. et que ben, je n'arrivais pas à mettre cette barrière en leur disant eh bien non, on est dans un aspect professionnel, donc ben, votre vie, ça ne me regarde pas. C'était très compliqué pour moi parce que je voulais vraiment avoir un impact dans leur quotidien, et pour ça, ben, fallait passer aussi par le fait de les écouter, même si parfois il y en avait trop et qu'on y passait trop de temps. Bref. Donc, fin de première année, il fallait faire le bilan. Je fais mon bilan professionnel, je sais ce que j'ai envie de reproduire et ce que j'ai envie de mettre en pause ou d'arrêter pour la prochaine année. Et il y avait quelque chose qui me travaillait, me tournait dans ma tête en boucle depuis quelque temps, c'était le fait d'être une femme complètement épanouie. Et pour être complètement épanouie, maintenant que j'étais libre de choisir pour moi ce que je souhaitais, vu que j'avais pas d'employeur duquel j'avais peut-être peur de la réaction, ou bien de me faire virer pour cette raison ou quoi, là ça y est, j'étais mon propre employeur et je pouvais faire le choix de porter mon foulard et d'être une femme complètement épanouie. Donc je n'ai pas hésité longtemps. Est-ce que j'étais prête à le porter? Honnêtement, je pense que si on attend d'être prête, on ne le portera jamais. Il n'y a pas, il n'y a pas de déclic miracle, il n'y a pas lumière magique qui vient un jour au réveil vous dire « bah non, aujourd'hui vous sortez pas sans votre foulard ». Enfin non, il y a juste un travail, un cheminement qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs années peut-être pour certaines. Et c'est cette petite graine en fait qui ne fait que mûrir, que grandir dans notre tête et qui un jour... Bah, on a une prise de conscience peut-être, en tous les cas ça a été le cas pour moi, j'écoutais de plus en plus de rappels, mon cheminement vers la foi était de plus en plus important, je voulais que mon comportement suive mon cheminement, donc j'améliorais mon comportement vis-à-vis des autres humains, vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis des personnes... qui était en difficulté, donc enfin voilà, augmenter les aumônes, augmenter les actes de bienveillance, ne serait-ce que par une parole ou un sourire, etc., etc. Et m'éloigner au maximum de tout ce qui pouvait me causer du tort ou qui pouvait causer du tort aux gens qui m'entouraient. Donc le cheminement se fait et je me pose plusieurs questions. Et je lis une phrase qui m'a fait beaucoup de bien en me disant... Enfin, en ne disant pas à moi directement, mais c'était une phrase que j'ai lue qui disait que cette vie d'ici-bas n'est qu'éphémère et que finalement, tous les biens qu'on a viennent de Dieu et toutes les épreuves qu'on a, en tous les cas qu'on a l'impression qu'ils viennent de l'humain, ne sont autorisées que par Dieu. Et l'humain est une cause. Donc ça ne sert à rien d'en vouloir aux gens de ne pas vous laisser faire ce que vous avez envie de faire, car finalement, vous êtes des causes. Donc si vous avez envie d'atteindre un objectif, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est pas la faute des autres. C'est à vous de faire le nécessaire pour atteindre votre objectif et d'atteindre le résultat souhaité, la finalité. Donc, en prise de conscience et connaissance de cette phrase, je me suis dit, mais oui, finalement, ça fait un moment que... Ben, que je souhaite porter ce foulard, pourquoi je le fais pas? Parce qu'avant, l'excuse, c'était la peur de mon employeur. Là, ça fait un an que je suis à mon compte. Qu'est-ce qui m'empêche de porter mon foulard, finalement? Eh bien, j'ai eu plusieurs peurs. J'ai eu la peur de ne plus être cette femme coquette que j'ai toujours été. J'ai eu la peur de ne plus plaire à mon mari. J'en avais presque oublié qu'à la maison, lui, il pouvait me voir dans tous mes états, hein, finalement, et dans mes plus beaux états aussi. J'avais peur de la réaction de ma famille, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de porter sur mes épaules le poids. Et pour moi, c'était un fardeau de la communauté musulmane, parce que pour moi, toutes les musulmanes et tous les musulmans ne représentent pas la religion comme il faudrait la représenter. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être se confondent le culte et la culture. Il y a beaucoup de personnes qui font appel à la tradition et non pas la religion. Et là, tout s'entremêlait, et je le vois bien au niveau de nos parents, nos grands-parents. Il y avait beaucoup de, voilà, ils mettaient en avant leurs traditions, leur culture, et ça n'avait rien à voir avec la religion. La religion, elle est simple, elle est facile, elle est la même pour tout le monde. Elle est bienveillante, elle veut du bien à tout le monde, elle veut la paix, etc. Alors que bah, dans les traditions, c'est pas tout à fait pareil, dans les mœurs, dans l'éducation, dans et même, enfin voilà, je parle ici des Arabes, mais tous les Arabes sont pas musulmans. Donc c'est là où je vous dis, j'ai grandi peut-être dans une communauté arabe qui n'est pas peut-être la meilleure représentante de la religion musulmane. Et en plus, avec tout ce qui se passe en France, je me dis, ça va être compliqué. J'ai eu du mal à me faire ma place en tant qu'étrangère en France, parce que même si moi, je suis dans mon pays et que je n'ai connu que ce pays-là, la France, il a fallu que je travaille deux fois plus pour faire oublier ma couleur de peau, mes origines. Il a fallu que je prouve deux fois plus. Il a fallu que je m'investisse deux fois plus, etc., etc. Et là, tout ce que j'ai voulu éviter, donc en m'intégrant au maximum, en étant la plus civilisée possible, etc., ben là finalement, j'allais me retrouver avec cette étiquette. J'allais être cataloguée comme la musulmane. Et je ne savais pas si j'avais la force, si j'avais les épaules d'assumer ce fardeau. En tous les cas, en France. Ce fardeau, c'est pas ma religion, le fardeau, hein, parce que j'étais déjà musulmane depuis bien longtemps, avant même de porter le foulard. Mais c'était le fardeau de porter le poids de l'image que se faisait la France des musulmans. Et là, on allait voir sur moi, finalement, tant que je porte pas le foulard, il y a toujours un doute. Il voit pas quand je prie chez moi, il ne voit pas que j'invoque Dieu, il ne voit pas, voilà, je parlais complètement français, au travail, il n'y avait pas de Inch'Allah, enfin, je m'adaptais à la personne qui était en face de moi, je le disais dans ma tête, quand j'avais des musulmans face à moi qui s'adressaient à moi, bien évidemment, c'est salam alaikum, tout comme j'aurais eu un anglais qui s'adressait à moi, j'aurais dit hello, good morning. Mais là, c'était différent parce que j'allais avoir vraiment l'étiquette de la femme musulmane. Et donc, tout ce que j'entendais autour de moi depuis des années, c'est-à-dire bah, peut-être l'étiquette de la femme au foyer, l'étiquette de celle qui fait des enfants et qui reste chez elle, l'étiquette de la femme dans la cuisine, l'étiquette de celle qui ne sait pas parler, qui ne sait pas lire ou qui est illettrée ou à qui on s'adresse limite de façon étrange, celle à qui on ne donne pas la parole parce que bah, elle n'a pas son mot à dire, car soumise. Voilà, toutes ces images qui, je sais, sont complètement fausses, évidemment. Hein. C'est pas. Faut pas prêcher une convertie. Mais c'était toutes ces images qu'avaient les Français. En tous les cas, l'image qu'ils ont voulu donner à la femme musulmane et qui me dérangeait. Donc finalement, ils avaient eu un impact sur moi. Et qui pourtant, enfin, je savais que c'était totalement faux. Mais je ne voulais pas être étiquetée de la sorte. Donc. En faisant tout ce petit melting pot dans mon bol, là, je mélangeais, et je me suis dit, mais finalement, quand j'ai des problèmes, est-ce que ces gens-là, ils viennent m'aider à les résoudre? Quand j'ai besoin de faire manger mes enfants, est-ce qu'ils s'inquiètent de savoir s'ils ont eu à déjeuner ou à dîner? Quand je dois habiller mes enfants, quand je dois les emmener en vacances, quand je dois subvenir à leurs besoins primaires et secondaires, quand je fais l'éducation de mes enfants, quand je suis seule à pleurer dans mon lit parce que je suis épuisée, quand je me démène à mener à bien mes projets, mes business, quand j'étais salariée et que je travaillais plus de 40 heures par semaine pour qu'un employeur s'enrichisse sur mon dos, est-ce que à un moment donné, il y a un étranger qui aujourd'hui me juge? Il y a un étranger qui est venu me demander si j'allais bien, si tout allait bien dans ma famille, si j'avais de quoi manger, si mes enfants avaient de quoi s'habiller ou manger ou boire. Absolument pas. Parce que la subsistance vient d'un seul et même être, qui est Allah. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, c'est Dieu qui donne la subsistance. Donc finalement, je me suis écrit carrément une phrase dans mon carnet et je n'ai cessé de la relire. Ne jamais obéir à la créature si ce qu'elle nous demande de faire nous fait désobéir au Créateur. Donc, ne pas obéir à la créature en désobéissant au Créateur. Et cette phrase, je l'ai retenue, je l'ai apprise par cœur, je l'ai lue et relue et re-relue pour m'en souvenir et me rappeler finalement que si on est sur Terre, c'est pour une cause bien spécifique, et je ne vais pas vous faire un rappel de religion dans ce podcast, mais c'est vraiment pour vous parler des petites anecdotes comme ça, des choses que j'ai entendues ou lues, qui m'ont fait du bien, qui ont apaisé mon cœur, et que je me suis dit, advienne que pourra, et que si je fais un pas vers mon Créateur, je sais qu'il en fera. Le triple, le quadruple, le, je ne sais pas comment on dit, le fois 10 envers moi, parce qu'il est miséricordieux, parce que pour me faire pardonner déjà de toutes ces années où je me suis trimballé les jambes, les bras et les cheveux à l'air sans préserver ma pudeur, que je voulais être, à défaut de porter le fardeau, entre guillemets, sur moi de l'image des musulmans qui représentent mal l'islam, ben moi j'avais envie de bien représenter l'islam. Vu que j'avais bien travaillé mon comportement en amont, aujourd'hui c'était juste la finalité de porter ce foulard pour préserver ma pudeur et enfin être complètement moi et être une femme épanouie et accomplie. Je me suis dit, mais qui aujourd'hui a le pouvoir de venir m'interdire de m'épanouir, de venir m'empêcher d'être la femme que j'ai envie d'être, alors que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a passé mes diplômes à ma place, personne n'a cherché à savoir si j'avais mangé ou non, personne n'a cherché à savoir, si ce n'est ma famille ou mon entourage proche, si je vais bien au quotidien. Alors pourquoi je laisserais ce pouvoir énorme des étrangers sur moi et choisir à ma place la façon dont je devrais m'épanouir ou non, la façon dont je devrais évoluer et me comporter ou non. Donc ça a été un gros choc, mais j'ai décidé, et je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram, j'ai décidé de commencer à porter le turban déjà pour m'habituer à couvrir mes cheveux, à m'habiller de façon beaucoup plus mastour, donc avec en recouvrant mes bras, en recouvrant mes jambes. Et comme c'était en octobre 2022, de mémoire, non, 2024, ça fait 2 ans, donc 2022, eh bien c'était en hiver, enfin on était à la fin de l'automne, donc c'était plus facile déjà de commencer à se couvrir de façon plus importante avant... avant d'arriver directement à l'été et devoir avoir chaud et toutes ces idées préconçues qu'on m'avait partagées quant au port de ce foulard et de ce... C'est pas un style vestimentaire, mais de cette façon de s'habiller beaucoup plus couverte. Je me suis dit, ok, lance-toi, fais ce que t'as à faire. Par contre, si tu mets les pieds dedans, il faudra pas revenir en arrière. Et il était hors de question pour moi de me dire que je reviendrais un jour en arrière. Donc j'ai réfléchi pendant un petit moment avant de sauter le pas. Et finalement, j'ai commencé à porter le turban, à m'habiller mastour. J'ai adapté ma garde-robe, je me suis équipée, j'ai acheté des turbans, des foulards. J'ai commencé à les partager aussi un petit peu sur Instagram. J'ai modifié certaines habitudes, certaines sorties que je faisais et qui me paraissaient maintenant tellement futiles, tellement lointaines de ma nouvelle vie, j'en avais plus besoin. J'avais plus nécessairement ce besoin d'aller dans certains endroits où il y avait de la musique, bon, sans parler des boîtes ou des... C'est pas des lieux que je fréquentais, et libre à chacune de faire ce qu'elle souhaite, mais c'était surtout des... J'aimais bien aller dans des restaurants avec des ambiances un peu musicales, pendant qu'on dîne, on aimait bien avoir des ambiances, fêter les anniversaires dans ce type de restaurant aussi, et c'est des lieux que j'avais plus forcément besoin de fréquenter désormais. J'avais besoin de plus de calme, plus de sérénité, j'avais envie de revenir à mon vrai moi. et ne plus ne me forcer à faire des choses que bah, qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec mes valeurs et mes principes. J'ai aussi voulu représenter, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le bon comportement pour pas salir cette belle religion, parce que les humains d'aujourd'hui, je trouve, ne représentent pas forcément leur religion. Comment dire? J'aime bien dire à certaines personnes avec qui j'échange qu'heureusement que l'islam n'est pas représenté par les musulmans. Parce que chacun définit les paroles de Dieu comme bon lui semble finalement. Il y aura autant de versions qu'il n'existe d'humains sur Terre. Donc il y a ceux qui sont intelligents et s'instruisent et vont effectivement se renseigner, chercher, aller rechercher la vérité, aller lire les paroles et pas la traduction, apprendre l'arabe pour vraiment lire les vrais mots et le vrai sens du Coran, suivre des savants qui vont donner les vrais sens des phrases et de ce qu'a voulu dire Dieu à l'époque et les prophètes également, etc., etc. J'avais pas tant envie de me justifier sur mes choix, malgré tout. Je suis passée d'une situation, d'un look, à une nouvelle situation, à un nouveau look. Même si mon comportement n'a pas changé, même si mon degré de diplôme, de connaissances, d'expertise, d'expérience n'ont pas changé, beaucoup de choses ont changé dans la vision, dans le regard des gens. Et ça, je m'y attendais. Je m'y étais préparée, mais je ne savais pas que j'allais le vivre de cette manière-là. Parce qu'effectivement, j'ai vécu des épreuves. Comme le fait par exemple de perdre beaucoup de clients, de perdre plus de 27 000 abonnés sur mon compte Instagram, parce que j'avais décidé d'assumer la nouvelle moi. Donc non pas que qui j'étais avait changé, c'est juste que j'avais décidé d'assumer physiquement la femme que j'étais au fond de moi. Maintenant, ça se voyait. Ça y est, c'est officiel. Et du coup, beaucoup de portes se sont fermées. Mais je me rappelais d'une phrase. Jamais une porte ne se ferme sans que plusieurs autres, encore meilleures, ne s'ouvrent. Car la subsistance appartient à Dieu. Et seul Allah nous permet de faire des choses ou nous enlève cette chose sans que nous ne soyons aujourd'hui informé de la situation de laquelle il a voulu nous épargner. Donc en fait, parfois, on voit un bien devant nous, on veut absolument acquérir cette chose, ce poste, ce projet, et finalement, quand ça tombe à l'eau, on est dégoûté, on se dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte au moment T que c'était quelque chose qui allait nous causer du tort. Donc au début, on en veut à la terre entière, on se dit mais Dieu, mais pourquoi? On remet en cause notre confiance en Dieu parce qu'on ne sait pas ce que lui sait. On ne sait pas le bienfait qu'il y a derrière cette épreuve. Et finalement, on ne se rend pas bien compte de pourquoi cette épreuve? Pourquoi moi? Et quand on prend du recul et qu'on réfléchit et que finalement on avance au fur et à mesure du temps, il y a énormément de portes qui se sont fermées à moi, que je ne comprenais pas sur le coup. Je disais, mais pourquoi Dieu, j'ai un bon comportement, je ne cause de mal à personne, mais pourquoi ça tombe sur moi, mais pourquoi toutes ces épreuves me tombent dessus? Et finalement, avec du recul, de la patience, des remises en question et plusieurs années plus tard, je me dis, ah ouais, mais en fait, heureusement que j'ai pas fait ce projet, heureusement que là, il m'est arrivé ce malheur, heureusement que cette épreuve est arrivée sur mon chemin, parce qu'il me serait arrivé encore pire si Dieu m'avait pas épargné à ce moment-là et qu'il ne m'avait pas ouvert une autre porte. Donc certaines personnes qui ne sont pas croyantes dans mes abonnés me posent pas mal de questions en me demandant, oui, mais si Dieu existait vraiment, ça c'est la question qui revient souvent, si Dieu existait vraiment, alors pourquoi il existe autant de malheurs sur Terre? Pourquoi il existe des pauvres? Pourquoi il existe des guerres? Pourquoi? Mais parce que Dieu, il a besoin de tester, d'éprouver sa créature pour voir qui est croyant, qui lui fait confiance, qui patiente, qui se rattache à lui. Et j'ai lu une phrase qui m'a fait beaucoup de bien. C'était à l'époque du temps des prophètes. Il y a un des compagnons, ou plusieurs compagnons du prophète, je ne sais plus, de Mohammed sallam, qui est venu en pleurant et qui lui a dit pourquoi Dieu ne m'envoie plus d'épreuves? Est-ce qu'il ne m'aimera, est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce que c'est parce qu'il m'a oublié? Est-ce que je suis devenu un mauvais musulman? Est-ce que je suis... Et il se questionnait et il était en pleurs parce que Dieu ne l'éprouvait plus. Et en fait, quand on dit Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime, c'est parce qu'en fait, si la maladie nous touche, c'est pour nous nettoyer de nos péchés. Si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre encore meilleure ne s'ouvre à nous. Si il y a ne serait-ce que la piqûre d'un moustique qui nous génère un mal-être, un malaise, c'est inconfortable. Il n'y a pas une seule épreuve, aussi petite soit-elle, qui nous touche sans que celle-ci ne soit un bienfait pour nous et du positif dans notre balance le jour du jugement dernier. C'est juste incroyable, subhanallah, quand on s'y intéresse de plus près, de se dire, mais oui, ok, mais en fait, toutes ces années, j'ai essayé de plaire à la créature, à ces humains qui sont ingrats, à ces personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui ne participent en aucun cas positivement à ma vie. Ils ne payent pas mes factures, ils ne viennent pas en aide à mes enfants, ils ne viennent pas me sécher mes larmes quand ça ne va pas. Ça, il n'y a que mes proches qui le font à la limite. Mais tous ces étrangers que je ne connais pas, dont j'ai peur du jugement, eh bien finalement, font que j'en ai oublié le jugement d'Allah, mon créateur, lui qui va me juger le jour du jugement dernier, à qui je dois rendre des comptes, à qui je dois donner le bon comportement. Alors effectivement, on doit bien se comporter avec tous les autres humains sur Terre, on ne doit pas juger, on ne doit pas être méchant, on ne doit pas manquer de respect, on ne doit pas créer les guerres, on ne doit pas alimenter l'animosité ou les disputes. Il y a tout un tas de valeurs à respecter, il y a un comportement à avoir en tant que musulmane. Mais je me dis, mais comment les gens peuvent craindre les musulmans et une musulmane quand apporte son foulard, quand on prend le temps de se renseigner un minimum sur la religion musulmane et les valeurs de cette religion, qui ne sont que paix et amour, qui ne sont que générosité et partage. Une femme et un homme musulman n'a pas le droit de parler d'une personne en son absence, n'a pas le droit d'inventer quelque chose sur une personne. Ce serait de la calomnie et c'est très durement puni. Si on connaissait ne serait-ce que le quart de ce que nous inculque le Coran, il y aurait beaucoup moins de guerres, beaucoup moins d'a priori, beaucoup moins de fausses croyances. Et il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de musulmans sur Terre. Parce que finalement, que ce soit musulman, j'essaie de convertir personne, hein, que ce soit musulman, juif ou chrétien, on a les mêmes valeurs de respect, de loyauté, de droiture, de paix, de partage, de générosité. Mais c'est juste que voilà, je ne vais pas vous faire un cours de religion, mais certaines religions se sont arrêtées à certains prophètes et n'ont pas reconnu le dernier des prophètes qui est celui de l'islam. Mais peu importe, j'aime vivre avec toutes les communautés, j'aime échanger avec tous les types de personnes, qu'elles croient ou non. J'aime échanger, on ne sait pas qui Dieu veut guider. Ceux qu'il a égarés, ils ne reviendront pas, même si je passais des journées à leur parler de l'islam, des religions, des bienfaits. S'il les a égarés, moi je ne suis personne, je ne pourrais pas les guider. Et ceux que Dieu a guidés, je ne pourrais pas non plus les égarer. Parce que Je partage certaines choses que je fais via les réseaux, etc. Parce que j'aime montrer bah, voilà, le quotidien d'une femme à 360 et d'autant plus aujourd'hui le quotidien d'une femme musulmane, mais dans ses bons côtés. Parce que pour moi, il n'y en a pas des mauvais. Moi, en tant qu'humain, j'ai des mauvais côtés. Mais l'islam n'a pas de mauvais côté, il n'y a que du bon. Donc effectivement, si je fais des erreurs, je les fais en mon nom et pas au nom de ma religion ou de ce foulard que je porte sur la tête et qui représente ma religion. Donc comme je vous disais, c'est un peu pour rebondir sur ce que je vous disais en début de podcast, en vous disant que heureusement que l'islam n'est pas défini par les musulmans. Moi, je suis humaine et l'humain est imparfait. Et ça, Dieu le dit, je vous ai créé imparfait. Demandez-moi pardon et je vous exaucerai. Donc en fait, on sait, Dieu, en nous créant, savait qu'on allait commettre des choses, des fautes, des choses qui sont pas bien parce que l'humain est faible, l'humain est imparfait. Mais cela dit, Dieu ne nous a pas dit de faire du mal. On peut commettre des erreurs, mais quand on la commet plusieurs fois, ça devient un choix, ce n'est plus une erreur. Donc quand on demande pardon, normalement, on n'est plus censé reproduire le péché en question, l'erreur en question. Donc normalement, l'humain doit faire un travail sur lui, avec son nefs. C'est pour ça qu'on appelle ça le djihad nefs, la bataille contre soi-même, contre son âme. Et aujourd'hui, je suis tellement occupée à faire le bien, à faire la bataille contre mon âme, que je n'arrive plus à comprendre le pourquoi je devrais me justifier auprès de personnes qui n'ont rien à voir en fait dans cette bataille personnelle et qui viennent juste parce que bah, il se passe des choses, et c'est surtout en France en plus, hein, parce qu'il se passe des choses en France où on a envie de salir cette religion, je ne sais pour quelle raison. Eh bien, peut-être que la vérité dérange et que vu que c'est une religion de vérité, peut-être qu'elle dérange davantage. Et on invente même des situations, on invente des images pour cataloguer les musulmans. Bref, je vais pas aller dans ce discours-là parce que après on va. C'est pas en tous les cas le message que je veux faire passer aujourd'hui. Peut-être que je ferai une édition spéciale où je vous dirai le fond de ma pensée sur tout ce qui se passe en ce moment en France. Mais j'ai envie de rester sur une note positive et tout le positif que m'a apporté le fait de me voiler malgré toutes les épreuves que j'ai vécues et qui ont généré en moi effectivement des gros doutes, tout un tas de questions. J'ai subi des remarques, mais des remarques malheureusement venant des deux camps. Parce qu'il faut savoir, des personnes qui sont extérieures et qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais vous en toucher deux mots ici. Quand on se voile, on a effectivement bah, tous les ignorants, entre guillemets, donc qui ne connaissent pas l'islam, qui ne savent pas, qui ont reçu différents sons de cloche entre les soi-disant musulmans hyper intégrés, pratiquants, musulmans mais non pratiquants. Voilà, je ne savais même pas qu'il existait des musulmans non pratiquants, mais qui sont très croyants au fond d'eux, ils sont musulmans, ils font le ramadan, mais par contre, bah, ils portent pas le voile, ils prient pas, voilà. Eh bien, ces personnes qui leur disent « Mais non, le voile n'est pas obligatoire, c'est n'importe quoi », ou bien les pseudo-professeurs de sciences islamiques qui vont dire... que le port du foulard pour la femme en islam n'est pas obligatoire, alors que c'est écrit dans le Coran. Enfin, comment une phrase qui est écrite noir sur blanc dans le Coran peut être interprétée à son opposé par des professeurs en sciences islamiques, au point de mettre le doute dans toute une communauté? Et c'est ça le problème, en fait, dans notre religion, c'est que il y a trop de personnes, et je ne sais même pas si ces personnes sont musulmanes, elles se disent musulmanes, mais peut-être que, et ça on le sait, hein, à notre temps et au temps des prophètes, il y avait des gens qui semaient la zizanie et la discorde volontairement en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Ils se faisaient passer même au temps du prophète pour des musulmans, mais c'était juste pour entrer dans la communauté musulmane et ensuite semer la discorde une fois que le prophète avait le dos tourné. Donc ça, on sait que ça existait il y a déjà des milliers d'années, donc pourquoi ça n'existerait pas aujourd'hui? Dans notre génération là actuellement où les menteurs sont partout, les manipulateurs sont partout, les situations complètement invraisemblables où on croit les menteurs et on punit les véridiques, ben, c'est devenu normal, en fait. C'est devenu courant. Donc voilà, je me dis, ces personnes-là essaient certainement de semer la discorde et le doute dans cette communauté. Et pourtant, les mots sont très clairs. Il suffit de lire, il suffit de réfléchir. Dieu nous a donné, on est doté d'une intelligence et il faut faire fonctionner son cerveau et pas juste écouter ce qu'on a entendu dans la rue ou ce que quelqu'un nous a dit un jour lors d'une conversation. Il faut aller chercher. On entend ce qu'on nous dit, mais il faut aller chercher par soi-même. Et donc, quand on se voile, il y a effectivement donc les ignorants qui nous disent « Mais pourquoi t'es voilée ? Ben, j'ai entendu l'autre jour ma collègue dire que c'était pas du tout obligatoire, que c'était les hommes dans la famille qui obligeaient. » Mais depuis quand ? Mais depuis quand ? Il y a aucun homme qui nous oblige. Absolument pas, c'est l'image qu'on veut donner pour montrer que la pauvre femme musulmane, c'est une religion d'obligation où on force la femme, on lui restreint ses droits, alors que la femme musulmane est une perle en islam. Son mari doit l'aider aux tâches ménagères. Ceux qui mettent les pieds sous la table, c'est parce qu'ils ont été éduqués dans une culture, dans des mœurs. Ils ont vu leur père mettre les pieds sous la table. Mais dans la religion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait sa femme dans toutes les tâches. Il l'aidait au quotidien, il veillait à son bien-être telle une princesse. Et en fait, c'est là où il faut juste remettre juste se renseigner, juste lire, tout simplement. Lire les hadiths, lire le Coran, lire les histoires des prophètes. Se renseigner, se cultiver et ne pas juste se baser sur des on-dit, sur la voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu ça quelque part, sans preuve, sans rien. Donc il y a, comme je vous disais, les ignorants, donc qui ne savent pas et qui ne connaissent rien de la religion et qui essaient peut-être de comprendre parce qu'il y a les médias, il y a les racistes, il y a les personnes qui essaient de salir la religion, il y a le mauvais comportement qu'ils voient devant eux et qu'ils en font une généralité, il y a les amalgames, il y a tout ça. Faire un petit mélange de tout ça qui est dans leur tête et qui ne comprennent pas ce choix, pourquoi une femme aussi jolie que toi, intégrée, qui s'exprime super bien avec tes diplômes, tu as été limite régressée en portant un voile. Mais absolument pas. Au contraire, j'ai évolué. Et j'ai évolué en bien vers ma foi et ma religion. Et ça ne regarde que moi. Même si ça se voit sur moi, ça ne donne pas le droit à d'autres personnes de me dire ce que je suis en droit ou non de faire ou comment je dois m'habiller. Je fais ce que je veux, ce sont mes choix. Et c'est pas parce que ça se voit sur moi que les autres ont un droit de parole ou un droit de regard là-dessus. Et ça, on le comprend par la suite avec un petit peu de maturité, un petit peu de prise de recul. Mais c'est pas tout. On a donc ces ignorants et on a notre propre communauté. Ces musulmanes que j'aime bien appeler, et ça me fait mal au cœur de le dire comme ça, hein, mais c'est mes musulmanes 2.0 qui se prennent pour des imams et qui sont là à coup de soi-disant rappel, parce que le rappel est bénéfique aux croyants, sous forme de rappel, venir nous dire que notre foulard est pas mis correctement, qu'on voit le cou, qu'on voit un bout de cheveux dépassé, qu'on voit un bout de cheville, qu'on voit... Mais en fait, pourquoi ? À quoi ça sert ? Quand on fait un rappel, on fait un rappel à quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'on connaît ses intentions, on connaît ses épreuves, on sait par quoi elle est en train de passer, on connaît son cheminement, donc on le respecte, on lui laisse le temps de faire son cheminement. Donc si ma sœur vient me faire un rappel en me disant « Fatih, là par contre, tu savais que dans l'islam, il n'y a pas le droit de montrer son cou ?» Parce que peut-être qu'elle se dit que je ne le sais pas, que si je mets juste un turban, peut-être que je ne me suis pas assez renseignée ou que je n'ai pas vu ce passage dans le livre. Là, ça va être bienveillant, parce que c'est quelqu'un de mon entourage et qui sait, qui connaît mes difficultés au quotidien, qui sait le chemin par lequel je passe, qui connaît mes doutes, qui connaît mes difficultés. Donc elle est en mesure de me faire un rappel et je sais, je vais bien le prendre parce que c'est bienveillant et c'est quelqu'un qui me veut du bien. Sauf qu'un étranger... dans la rue ou sur Instagram qui va venir me dire, et c'est surtout sur les réseaux sociaux, hein, parce que dans la rue, on n'ose pas. Soit on nous regarde noir, soit on va pas venir nous dire « Salam alaikum, je te connais pas, mais par contre, je te fais un rappel. Là, on voit ton cou et c'est pas bien, c'est pas un voile légiféré. Donc, merci de pas montrer le mauvais exemple et de retourner chez toi, le mettre correctement, sinon de ne pas le porter du tout. » Non, ça, on le fera jamais en face, évidemment, parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, on se permettra jamais d'aller la voir et de lui faire ce type de remarque sous prétexte de rappel bénéfique. Donc, en fait, on est, nous, au milieu, nouvelle voilée. C'est déjà assez compliqué avec tout ce que ça engendre, en tous les cas, en France. Déjà, pour ma propre personne, bouleverser tout mon quotidien, tout ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, mon style vestimentaire. Avant, je me faisais des brushings pour sortir dehors. Bah, du coup, maintenant, je dois couvrir mes cheveux. Je dois prendre l'habitude de porter quelque chose H24 sur ma tête. Donc, H24 quand je suis dehors, hein. Bien évidemment, quand je rentre chez moi, j'enlève tout. Mais de à chaque fois que un étranger vient à la maison, il faut que je me couvre la tête et que bah, je sois assez couverte sur mon corps, que je préserve tout ce que j'ai de plus beau, et donc mon corps, mes cheveux, toute cette beauté de l'humain et du corps humain, bah, seulement pour ceux que j'ai choisis, donc mes proches, mon mari, etc. Et que aucun étranger n'ait un droit de regard sur ce qui est de plus précieux sur mon corps. Et c'est ça qui est beau. C'est comme une perle qui est enfermée dans son coquillage. Tout le monde ne peut pas l'ouvrir. Et elle ne souffre que quand elle ne l'a décidé. Et là, c'est pareil. Et je trouve l'image très, très belle. Et quand, normalement, des femmes qui sont elles-mêmes voilées sont censées savoir toute cette beauté autour de l'islam, ne viennent pas encourager cette nouvelle voilée en lui disant bravo, félicitations, je suis passée par là, je sais à quel point c'est pas évident de porter le hijab, d'autant plus dans un pays qui n'est pas musulman, avec toutes les difficultés du regard des gens, etc. Et venir, excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. On est 100% naturel, hein, ça va être le plus long des podcasts, mais au moins j'ai été, je vous ai parlé à cœur ouvert. Je vais boire vite fait et je vous reprends. Et donc du coup, ne pas se sentir soutenue, ni par les gens qui avant nous soutenaient parce qu'on était une femme lambda et qu'on ne portait pas le foulard, ni par notre communauté musulmane qui vient nous reprocher des choses plutôt que de nous soutenir et nous dire « t'en fais pas, là pour l'instant tu portes le turban, bon c'est pas comme ça qu'il faudrait le porter, mais par contre t'as déjà fait un énorme pas dans ton cheminement, donc bravo, et je te ferai des invocations dans mes prières pour que Dieu te facilite et facilite à toutes celles qui veulent le porter et cheminer vers leur foi, vers leur religion. » Ça c'est bienveillant, ça donne envie et ça me donne envie de t'écouter les prochaines fois quand tu viendras me dire des choses. Je vais me dire « Ok, elle m'a soutenue quand j'ai fait un pas important dans mon cheminement. » Donc là, quand elle va me faire un rappel, peut-être que je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas sans le savoir. Et ben quand elle va me dire « C'est pas bien », je sais que c'est pas un jugement, je sais que c'est pas malveillant ou juste pour me montrer qu'elle est supérieure à moi. Au contraire, c'est bienveillant et elle veut mon bien. Elle veut que je chemine sans m'imposer le fait de cheminer à son rythme à elle, sans m'imposer sa vision de l'islam, sans venir sous forme de reproche. Mais c'est pas avec le reproche qu'on avance. C'est justement avec le soutien, avec la bienveillance, avec j'attends pas qu'on me félicite d'avoir fait mon cheminement, mais je n'attends pas non plus qu'on vienne me reprocher mon cheminement. Et c'est là où ça a été très compliqué, la fin de ma première année. J'ai perdu des clients, j'ai perdu des abonnés, j'en ai perdu 27 000 comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'ai perdu aussi des personnes que j'ai aidées, des personnes que j'ai accompagnées quand je n'étais pas voilée. Mes conseils étaient utiles quand je ne portais pas de foulard. Et à partir du moment où je portais la religion sur moi, ça y est, c'est comme si tout s'était effondré et que finalement je devenais inintéressante, que ma parole n'avait plus de valeur, que ma présence, mon existence sur Terre n'avait plus de valeur. Et ça a été très compliqué pour moi, donc j'ai eu besoin de faire un gros break, de tout poser à plat, de me poser des questions. À quoi bon ? Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter à moi-même pour construire ma place dans l'au-delà? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes enfants? Me recentrer sur le principal et me détacher de ce regard des autres. Et effectivement, quand on est hypersensible comme moi, c'est très compliqué parce qu'on ressent les émotions. Quand quelqu'un me regarde, il n'a pas besoin de parler. Parce que rien que via son regard, son attitude, son comportement, eh bien, je décris des émotions. Et c'est ce qu'on appelle aussi le langage non verbal, et ça a été très très compliqué pour moi d'assumer et de gérer toute cette quantité d'émotions et d'informations. Et donc, j'ai fait le choix, j'ai demandé comme ça sur un coup de tête, et j'ai dit à mon mari, écoute, le seul endroit où je peux me sentir bien pour avoir des réponses à mes questions et surtout cheminer, continuer à cheminer vers Dieu, et à être la personne que j'ai envie de devenir et continuer à m'épanouir, eh bien, c'est d'aller dans la maison de Dieu. Est-ce que ça te dit qu'on y aille ensemble? Et c'est un épisode que vous aurez la semaine prochaine. Je vous parlerai de mon voyage à la Hamra et du coup, le bouleversement qu'il a engendré dans mon quotidien, dans mon business, dans ma façon de voir les choses, au sein de ma famille, au sein de mon couple, et tout ce que ça a apporté de positif dans mon cheminement vers Dieu et vers ce comportement que j'essaie de parfaire, même si la perfection n'existe pas. C'est ma vision du comportement parfait en tous les cas. Je ne serai jamais parfaite et j'en ai conscience, mais j'essaie du moins d'être la meilleure version de moi-même et de m'améliorer en tous les cas au quotidien. Voilà, j'espère que ce long épisode spécial Confidence vous aura plu. Qu'on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi prochain. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot sur Instagram, à partager le podcast si vous en avez envie, à des personnes peut-être qui sont en train de se questionner, de cheminer elles aussi dans ce même parcours, de se poser les mêmes questions, si ça peut les aider, le fait que je me livre autant, et Dieu sait que j'en ai pas l'habitude, mais ça me fait du bien aussi de me dire que ça peut en aider certaines. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à vendredi prochain pour passer un nouveau moment ensemble, si Dieu le veut.